One, two, three, ho!
On dessine aujourd'hui les vélos qui seront présents en 2023-2024 et on produit aujourd'hui les pièces qui seront montées sur les vélos des séries 2022. On sait déjà que pour 2022, il va encore y avoir une forte tension. Moi, j'en suis à commander les vélos pour la fin de l'année 2022 maintenant. Normalement,
Ah.
on place les commandes en octobre-novembre pour l'année suivante. Et là, maintenant, nous sommes en mars. Et il faut se dépêcher de commander pour 2022. Pour 2021, on ne sait plus commander. Donc on aura ce qu'on aura et à peu près la moitié de ce qu'il faut. C'est l'excellent signe, enfin c'est le signe désagréable d'une excellente chose, à savoir que enfin le boom du vélo est là, quoi.
Salut tout le monde, le boom du vélo est là et vous n'imaginez pas à quel point ça fait plaisir à tous les militants qui sont là depuis des années, même des décennies qui militent et qui voient enfin l'explosion de leur mode de transport préféré, le mode de transport qui sauve la planète, le mode de transport qui sauve l'humanité, le vélo. On va causer vélo ce soir, mais ça n'est pas pause vélo, on va causer vélo avec nos copains des Sockettes en titane, générique!
Les sockets en titane.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Sockets en Titane, l'émission de Radio Campus qui ne parle que de vélo. Bien, nos invités aujourd'hui, c'est ProVélo qui vient de lancer une campagne qui se nomme la campagne Ancel pour favoriser l'usage du vélo chez les femmes. On aura l'interview exclusive de Pauline Perrine, influenceuse parisienne, et de Clem Cycle qui nous explique leur amour du fixie et comment ils dégotent des vélos hyper rares qui font baver tous les amoureux du pignon fixe. Et bien sûr, je suis accompagné de Mélo Vélo. Bonjour Mélodie, comment tu vas?
Salut Clément, ça va super bien. J'ai pris un masque où on va mieux m'entendre cette fois-ci. J'ai abandonné Manchester City pour quelques minutes.
Magnifique, puisque tu as un masque, pour que ceux qui ne le savent pas, un masque estampillé Manchester City, en bonne supportrice que tu es. Et tu vas nous parler en deux mots de quoi aujourd'hui?
Alors moi je vais parler de quelques initiatives pour la femme et le vélo dans le monde.
Tu introduiras donc l'interview avec ProVélo. Alors bonjour Jean-Philippe. Jean-Philippe, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui?
Je vais vous parler des problèmes d'approvisionnement dans l'industrie du cycle et chez les vélocistes depuis quelques semaines et pour longtemps encore.
Magnifique, merci d'être avec nous comme tous les deuxièmes vendredis du mois. Et évidemment, je suis accompagné de Katia, alias la nomade sédentaire. Tu as l'honneur et le privilège de commencer cette émission, mais par quelque chose de beaucoup plus grave et lourd.
Oui, je suis un peu plombé l'ambiance, je suis désolée, mais voilà.
Non,
mais
ça fait partie
de
notre réalité de cycliste urbain.
Exactement. Donc il y a eu une jeune femme qui est décédée donc il y a quelques semaines, renversée par alors qu'elle était enfin à vélo, ou en tout cas je sais pas si elle était dessus ou enfin peu importe, mais voilà, elle est décédée en rentrant du travail dans Bruxelles chez elle. Donc voilà, j'ai voulu lui rendre un petit hommage. Donc comme tout le monde, j'ai appris le drame un dimanche matin, le lendemain du terrible accident. D'abord la stupeur mêlée à de la colère. Comme tout le monde, j'ignore les circonstances. Tout ce que je sais, c'est qu'une jeune femme de 30 ans est morte en voulant traverser une avenue à Bruxelles. Elle s'appelait Iwona. Très vite, les réseaux s'enflamment. D'un côté, la colère, l'indignation. De l'autre, les justifications, plus ou moins décentes, souvent choquantes. La liste des torts, de part et d'autre, supposée, imaginée, fantasmée, puisque la presse est muette sur les circonstances exactes de l'accident. Était-elle sur son vélo à côté? La conductrice roulait-elle trop vite? La vue était-elle obstruée? Pendant qu'une partie de la population sombre dans le victim blaming, cette manière d'accuser la victime d'être l'auteur de son propre malheur, refusant toute remise en question du mode de fonctionnement de la ville telle qu'elle existe aujourd'hui, dans laquelle la voiture reste reine, la voiture reste omniprésente, dans laquelle c'est à la ville et à ses habitants de s'adapter à la reine voiture et non l'inverse. Pendant qu'une partie de la population accuse donc, d'autres pleurent cette nouvelle victime du tout voiture. Un tout-voiture tellement ancré dans les esprits, à force de marketing, oserais-je dire de propagande depuis les années 70, à force de « ma voiture, ma liberté ». Un tout-voiture tellement omniprésent que celui ou celle qui ose le remettre en question, celui ou celle qui ose rappeler que la ville, ce sont avant tout des êtres humains, que la voiture n'est qu'un outil, que la ville ne peut pas tourner autour de la voiture, qu'elle doit continuer à nous servir et non nous asservir. Tellement enracinée que celui ou celle qui ose ouvrir le débat sur la place des véhicules motorisés en ville est immédiatement taxé d'extrémiste, de bobo, et son discours d'idéologique. Idéologique, ce nouveau terme à la mode que l'on ressort dès que l'on n'est pas d'accord avec une idée. Mais elle est où l'idéologie, sérieusement ? Dans une ville qui a décidé de remettre la personne, son bien-être, sa vie, à l'avant-plan ? Ou dans celle qui continue, qui s'obstine à donner la priorité à la vitesse, à la puissance, au moteur, malgré toutes les externalités négatives de la voiture, désormais bien connues de tous, malgré une densité de population de 7500 habitants au kilomètre carré. 7500 habitants au kilomètre carré. À titre de comparaison, la densité de population Amsterdam est de 3800 habitants au kilomètre carré. Iwona était une de ces 7500 habitants au kilomètre carré. Iwona repose désormais en Pologne, d'où elle était originaire. Quelques jours après la tragédie de l'avenue Albert, une amie d'Iwona m'a écrit ceci. « Je viens de regarder votre page Facebook. Il semblerait que l'histoire d'Iwona vous a touché. Je viens juste de rentrer de la messe commémorative pour Iwona. Sa famille m'a demandé de faire tout le possible pour que la vie de leur petite sœur ne soit pas perdue pour rien. Ils ne seront pas présents vendredi car ils vont rejoindre les parents pour l'enterrement en Pologne. » Pour que la vie de leur petite sœur ne soit pas perdue pour rien. Osons la remise en question. Osons le changement. La ville d'Oslo a atteint son objectif de zéro tué sur les routes en 2019. Les Norvégiens sont-ils des êtres supérieurs, plus malins que nous ? Non. Simplement, leurs responsables politiques ont sans doute donné la priorité à la vie. Pour terminer, j'invite nos responsables politiques, tous niveaux confondus, à méditer sur cette citation de Simon Sinek. « Great leaders are willing to sacrifice the numbers » to save the people. Poor leaders sacrifice the people to save the numbers. Il ne tient qu'à nous, nous tous, citoyens et politiques, de faire tout le possible pour que la vie d'Iwona ne soit pas perdue pour rien.
Merci Katia pour cet hommage. Tu es de trop. Je suis un peu troublé aussi, j'avoue, parce que tu viens de nous lire, parce que je l'ai découvert en même temps que tout le monde ici. Voilà. Mais en tout cas, un grand merci. Et le vélo, c'est pas qu'une histoire de transport, c'est aussi une histoire d'amour de collectionneur. Et c'est l'interview que je vais vous proposer d'écouter dans quelques minutes, même pas, puisque j'ai interviewé lors d'un rassemblement de la communauté fixie. Alors on dit plus fixie, on dit pignon fixe. Alors qu'est-ce qu'un pignon fixe ? Qu'est-ce qu'un vélo à pignon fixe en deux mots, pour ceux qui ne le sauraient pas ? C'est un vélo qui n'a pas de roue libre, qui n'a pas de vitesse et qui souvent n'a pas de frein non plus. Et donc c'est un vélo de piste à la base qui a été mis dans la ville, dans les rues, puisqu'à la base on ne s'en servait qu'autour de, sur une piste, dans un vélodrome. Et ce vélo, eh bien, vous oblige à pédaler tout le temps puisqu'il n'y a pas de roue libre. La roue libre, c'est ce qui permet à votre roue de tourner sans que vous soyez obligé de pédaler tout le temps. Donc c'est ce petit cliquetis que vous entendez dans le moyeu arrière de votre roue, dans le moyeu de votre roue arrière.
J'adore.
Et ce petit cliquetis, ben non, il n'y en a pas quand on roule en pignon fixe. Et alors j'ai rencontré Clément et Pauline, qui sont deux Parisiens sont clairement des grands amoureux du pignon fixe. Mais au-delà d'être amoureux, Clément est un collectionneur. Clément a dégoté des pignons fixes, des vélos hyper rares. Avant, c'était quelque chose qui pouvait se trouver facilement. Avant le tout à la voiture, avant qu'on motorise tout, il faut savoir que les vélodromes avaient une fonction populaire, qu'on se retrouvait facilement. Les riches allaient à l'hippodrome et les classes populaires allaient au vélodrome. Et donc il y a eu un engouement énorme pendant beaucoup de temps, mais c'est passé de mode avec la motorisation, malheureusement. Plein d'équipes de pistes, de vélos sur piste avaient des collections dingues de vélos qui malheureusement ont disparu, ont été jetés, c'est ce qu'il va nous expliquer. Mais heureusement, Clément, lui, a senti la bonne occasion et a réussi à en choper des lots entiers. Et il est l'heureux détenteur de vélos hyper hyper rare ukrainien. Et alors, en postant les publications là pour annoncer notre émission, il y a un ukrainien qui nous faisait remarquer sur la page Insta des Sockets que Clem Cycle, ce français de Paris, détient plus de vélos ukrainiens que les Ukrainiens eux-mêmes n'en possèdent. Ils en ont plus, en gros, à Kiev ou dans la ville à côté où ils ont été produits, parce que c'est lui qui les a tous. Bon, mais si vous voulez
Voir en tout cas ces beaux vélos, vous pouvez déjà aller sur notre page à nous, mais vous pouvez surtout aller sur leur compte, puisque Clem Cycle et Pauline Perrine, qui est une influenceuse, qui a quand même un gros compte sur Insta, et qui met en valeur par des très belles photos tous ces vélos que Clément a pu récolter. Alors, cette interview a été réalisée dans une voiture, d'où l'acoustique un petit peu spéciale. Tu as dû avoir 400 vélos, ouais. C'est ça, j'ai bien entendu.
J'ai beaucoup acheté. J'achetais des lots de vélos. J'en retapais la plupart. Certains, je gardais. Parfois, je gardais les pièces. Mm-hmm. Et je quittais le plus possible d'origine. Le tout pour leur donner une seconde vie. Mais surtout pour un vélo qui marche bien. Pas forcément un vélo un peu à l'arrache avec les composants qu'il veut, tu vois. Mais souvent, des gens qui viennent et qui des vieux Peugeot, par exemple, d'il y a 50 ans, mais refait à neuf. Tout le câblage est neuf et souvent les outils, c'est assez cool. Ouais. Je trouve pas mal de vieux outils dans les clubs, les vélodromes.
Mais donc, c'était pas des pignons fixes ici?
Non, c'était beaucoup des routes, quelques pignons fixes, mm-hmm. beaucoup pour des amis. Et ouais, j'étais sur. Puis après, je mettais des petits montages sur le bon coin. J'achetais un ou deux vélos par mois. Et puis après, je commençais à acheter.
Des lots entiers, quoi.
Pas mal de lots, ouais. Le premier que j'ai acheté, c'était 50 vélos. Bon, c'était que des vieilles routes, que des Peugeot, des. Ouais, des vieux routes français.
Des années 70.
Et quelques plus vieux, les vélos des années 30-40. Mais c'était plutôt pour un côté simplement les laver, donc inutilisables. Juste les rendre à peu près beaux en tant que déco. Et derrière, on voulait les louer à films, de clips. Bon, ça s'est pas trop fait. Mais...
et tu es de Paris à la base.
Ouais.
Et après, tu en es venu aux pignons fixes essentiellement.
Ouais.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as
une cinquantaine de vélos.
Oui.
De toutes pistes et routes surtout. Et dans les routes, beaucoup de contre-la-montre. Pas mal de Vitus, c'est les Vitus collés.
Tu avais déjà un amour du vélo avant?
Non, pas directement. Bah, mon histoire va être beaucoup moins passionnante, mais à 17 ans, tout comme ça. Mm-hmm. Et le fait de rouler m'a tout de suite plu. Même si j'ai eu un très gros accident, justement, avec ce vélo. Ah. Et je me suis fait rouler sur le bras. C'était... Même pendant cet arrêt, j'avais qu'une seule hâte, c'est de retourner sur mon vélo et d'aller rouler. J'en pouvais plus. J'étais au bout de ma vie. Et c'était une toute autre histoire d'amour aussi.
C'est bon, les Tachyon, j'en ai 7.
Oui.
Après, il y a 3 grosses marques. Antonov, qui est une boîte d'aviation qui ont fait quelques vélos un peu de ouf. Il y a les fameux Tachyon, qui s'appellent plutôt Torchion. Ils ont fait genre 600 vélos, tous modèles confondus, entre 80 et 93. Enfin, même 79 et 93.
Le guidon, il est entre la fourche et la potence. Enfin, la potence. Et le tube de... Non, il n'y a pas de potence.
La cuvette inférieure du jeu de direction. Il est vraiment sur la fourche.
Ce qui fait qu'on est hyper, hyper penché.
Ouais. Alors, en fait, si tu le regardes de profil, le guidon remonte, forcément. Le top tube, il est très bas, quelle que soit la taille du vélo. Mais en fait, c'est des vélos extrêmement longs. Le cadre est long et c'est encore plus long. Donc, ouais, ça casse un peu le dos. Mm-hmm. Et en fait, tu es vachement sur ta roue avant. Tu la vois beaucoup plus. Le bike est hyper léger. Ce qui fait qu'ils sont absolument... Enfin, c'est fou à conduire, un truc pareil. Ça a une patate. C'est... Tu vois les roues un peu marron qui ressemblent à ressemblent à du bois. C'est pas du bois, c'est un mélange de Kevlar soviétique, c'est de l'aramide. Et ces roues-là, elles font entre 800 et 900 grammes la roue. C'est plus léger que les Corima, les Mavic actuels.
Ah ouais.
Pas de rayon, il y a juste une bête jante en alu qui est percée tout du long qui doit faire 20 grammes, un moyeu en alu tout bête, et des morceaux de Kevlar hallucinants. Donc c'est léger, puissant, rigide. Ouais, enfin bref, ces vélos, c'est.
Donc c'est l'aéronautique qui s'est déclinée dans le vélo, quoi. Ici,
ah bah,
c'est
à fond. À fond. Quand tu vois que Antonov, on est bon en fibre, on va faire un vélo. Ils ont fait un vélo qui ont tellement tout niqué que l'UCI les a tous interdits.
Ah
bah ouais.
Ah, c'était du dopage.
Ah ouais, les fluidisques sont interdites, les Antonov sont interdits, les Tachyon aussi avec le guidon sur la fourche, c'est interdit. Il y a des gars qui sont tombés, qui sont pris le guidon sur la fourche. Mort. Ça arrive. Guidon dans le crâne, ouais, et qui du coup l'ont mal vécu. Et bon, de toute façon, tous ces vélos-là, il y a des raisons pour lesquelles ça n'existe plus, tu vois, c'est trop puissant.
Ah ouais.
C'est trop puissant, trop léger, trop agressif, déjà il y a 40 ans. Et malheureusement, l'UCI, ils ont dit non, très vite.
Et tu disais qu'on était fort vers l'avant du vélo, que la roue arrière était hyper allégée du coup, mais elle prend assez quand même pour la propulsion, quoi.
Ah
elle touche assez.
Complètement.
Voilà.
En fait, si tu veux, c'est très serré de partout. Dans le sens où, quand vraiment tu mets ta...
Entre les roues.
Ouais. Quand tu mets ta roue arrière au fond des pattes piste, mais le pneu, le boyau en 18, il lèche tout doucement le site tube. Il le touche pas, mais il en est très proche. Ce qui fait que non, c'est un vélo qui est très serré de partout. Même la roue avant, elle frotte la fourche, elle frotte le down tube. C'est incroyable. Mais c'est fait d'une manière où dès que tu... Déjà de base, même sans lever tes fesses, t'es tellement aéro et t'as tellement tout ton poids de buste loin devant que c'est simple à emmener, à envoyer. Mais à partir du moment où tu mets toute ta force dans le pédalier et qu'en plus tu mets tout ton poids en avant parce que t'es en danseuse, mais c'est un autre monde. J'ai jamais roulé un vélo aussi puissant que ça. Et du coup, tu sais, j'en ai acheté un, je l'ai roulé un peu, ça m'a rendu fou et maintenant j'en ai 5 avec le guidon sur la fourche et j'en cherche encore.
Ça, c'est la marque, répète un peu.
C'est Tachyon.
C'est Tachyon.
Ouais.
Ouais. Celui dont tu n'en as qu'un, c'est le...
Antonov.
Ok.
Antonov, ouais.
Mais avant d'avoir ces modèles ukrainiens, tu avais déjà pas mal de vélos de piste français, italiens.
Oui.
Et comment tu les trouvais, tous ces vélos?
Parce que c'est de Le Bon Coin.
Ah ouais.
Bouche à oreille, un peu sur Facebook. Et sinon, de fil en aiguille, aller dans des vélodromes, contacter des équipes.
Ah ouais. Qui ont des vieux stocks, c'est ouais. Ça
bon, alors, c'est plus très commun. Parce que malheureusement, j'arrive un peu tard. Donc, il y en a beaucoup qui ont déstocké, qui ont déjà vendu, ou alors qui ont jeté. Malheureusement, il y en a tellement qui sont partis à la benne. C'est extrêmement triste.
Des vélos de piste qui aujourd'hui, on s'arracherait pour les avoir, ils ont été jetés.
Oh là, bah oui, non, mais complètement. Même des Colnago et des trucs hallucinants, des vélos de musée. C'est triste, hein, mais c'est le cas. Piste et route.
Ah ouais.
Ouais. Bah, en fait, le problème, c'est de Gribaldi, par exemple, qui est l'équipe vraiment chez laquelle j'ai trouvé le plus de vélos, avec lequel je suis le plus en contact. De trentaines d'équipes sous leur nom. Casse, SEM, Flandria, enfin c'est monstrueux comme boîte. Énormément de voitures, énormément de vélos. Et il y a pas mal de vélos qui sont partis chez des coureurs à droite à gauche. Ils devaient leur en rester, je sais pas, 70, 80 d'époque. Moi je leur ai acheté 60 vélos en tout. C'est une équipe qui a pu les garder parce qu'ils avaient les locaux. Alors que souvent maintenant les équipes ils ont plus de locaux. Même les vélodromes. Des vélodromes, ça leur appartient pas non plus, ça appartient aux mairies. Ce qui fait que bah, souvent ils étaient obligés de les jeter ou de les donner. Et vu que les vélos. Et tu vois, ils étaient pas. Tu prends le mécano d'une équipe, le vélo lui appartient pas. Il s'en sert, mais c'est pas à lui. Et c'est pour ça que souvent, il coupait les guidons, il coupait les pédaliers ou tout pour alléger ou je ne sais quoi. Parce que il faisait tout pour être le plus puissant et le meilleur sur la course. Mais c'était pas leur matos. Donc, le foutre à la benne, il y avait un côté où ils étaient un peu là. Bon, bah voilà, il aura bien vécu. Ciao. Mais évidemment, pour nous, qui cherchions à les racheter, pour les remonter, pour les adorer, parce qu'ils sont magnifiques, bah ouais, il y en a beaucoup qui sont. Inexistant maintenant.
Et même si le pignon fixe est un peu passé de mode, hein, d'après ce qu'on dit, il y a quand même de la demande, t'arrives à les vendre, tout le monde en veut.
Complètement.
Ouais.
Ouais, je trouve pas du tout que c'est passé de mode. Voilà. Ouais, regarde derrière nous là.
Voilà. Parce qu'en fait, on est quand même quoi, une bonne vingtaine ici à être venus tous en fixe.
Et puis il y en a partout. Hein. Mmh. À Paris, parce qu'on en vient, mais il y a tellement toutes ces villes. Il y a des gars en fixe partout. Mmh. Moi, je trouve que ça grossit.
Oui, justement, c'est revenu en force. C'était peut-être passé de mode un fut un temps, mais c'est revenu en force le climat actuel. Et c'est genre, il y en a partout. Les communautés sont énormes partout dans le monde. Et c'est ça qui est génial. Genre, enfin, c'est vraiment une communauté genre unie. Et même partout où on va, où on rencontre tous les gens qui roulent en fixe, il y a toujours ce côté très... Je sais pas, il y a une force qui fait que c'est ouf, c'est ça que j'adore aussi. C'est pour ça que j'ai trop envie d'aller partout dans le monde pour rencontrer toutes les communautés et genre d'aller rouler avec tout le monde et de partager cette passion, de partager cette folie. Il y a vraiment un truc à faire géant avec ça. Donc c'est pour ça que c'est.
À fond.
Et c'est pour ça que vous êtes à Bruxelles aujourd'hui d'ailleurs, entre autres. Ça
bah
fait
oui.
Partie du même truc.
Ah oui, ça fait partie du game.
T'as appris la mécanique sur le tas, toi, ou t'as pris des cours et tout.
Ah, j'ai tout appris sur le tas.
Ah, ouais.
Après, oui, il y a quand même des vieux mécanos, tu vois, qui m'ont appris les techniques et tout.
Mm-hmm.
Genre, mon compresseur à la maison, c'est un tout petit moteur de frigo qui a été un peu bypassé, je ne sais comment il m'expliquait, j'ai rien retenu. Aucun bruit.
Ah, ouais.
Et ça me gonfle mes pneus à 10 bars, j'ai rien à faire. Et tu vois, c'est des petites techniques de gars à l'ancienne qui n'existent pas aujourd'hui. Donc, ouais.
Des vieux mécanos que tu as rencontrés comme ça.
Ouais. Je cherche à joindre une équipe, un vélodrome ou je ne sais quoi. Et je tombe sur un mécano. Et c'est très souvent les mécanos qui ont accès au matos, qui ont les clés. Et c'est eux qui me disent, bah vas-y, je prends celui-là. Et qui m'apprennent des choses. Donc on parle, j'y retourne. Ah, c'est top.
Dans toute la France, quoi. Enfin, t'as sillonné un peu.
Je suis pas allé le plus loin que j'ai fait. C'était vers Lyon, Besançon, 8 heures aller-retour, quoi.
Mm-hmm.
Parce que souvent, je pouvais pas dormir là-bas, donc fallait que je fasse l'aller-retour.
Mais il y avait de quoi faire déjà, quoi.
Oh oui.
Vu le nombre de vélos qu'il y a chez toi. Il y en a dans toutes les pièces ou c'est juste une pièce qui est dédiée?
Alors, ce que tu vois sur Instagram, voilà. C'est chez mes parents,
ah,
les pauvres.
On saura tout.
Ah ouais.
Et en gros.
J'ai deux frères mais qui vivent plus chez moi, donc j'ai récupéré les chambres. Donc il y a une chambre qui est venue un atelier complet, c'est vraiment la grosse pièce avec les vélos au mur.
Mm-hmm.
Et l'autre où on voit tous les tachyons les uns à côté des autres, ça c'est la chambre dans laquelle je dors. Puis il y en a un peu dans le salon, un peu dans la cuisine, sur le balcon, un peu partout. Okay. Et là, je déménage dans un plus petit appart, une sorte de loft, tu vois, dans le sens où tout est en une pièce. Bar, cuisine, salle de bain. Non, pas salle de bain quand même. Enfin bref, un petit loft de 36 mètres carrés, ça va être tout mignon, ça va être blindé de vélo.
Eh oui, de partout. Pareil pour moi.
Ouais, sur Paris, 36 mètres carrés, c'est vite un loft, effectivement, en termes de...
Ouais, bah oui, dans l'idée, ouais.
Ouais, ouais, ouais. C'est un truc large, quoi. Un atelier style assez ouvert, quoi.
Complètement, c'est ça. Complètement. Il y a un mur qu'on est en train de péter, justement, pour vraiment agrandir encore plus visuellement.
Okay.
Et ça va être le début de Cyclo Paris un peu plus violent.
Nickel. En tout cas, grand merci pour cette interview.
Avec plaisir.
Voilà, c'était donc l'interview de Clem Cycle, Clem.cycle, et de Pauline Perrine, Pauline.perrine, que vous retrouvez sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir leurs magnifiques photos de vélo d'exception. Mais Mélodie, donc tu vas prendre du large, on va rester focalisé sur le vélo. Nous t'écoutons.
Ce lundi 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour parler un petit peu des initiatives autour du vélo et de la femme. On l'a déjà dit souvent, le vélo, c'est un objet d'émancipation. Même si ici, à la fin du 19e siècle, des médecins déconseillaient la pratique du vélo aux femmes occidentales. Et même si on a l'impression que cette période est révolue, aujourd'hui en Iran, les autorités réaffirment cette interdiction. Et pour protester contre cette décision, y a une petite poignée de femmes qui se sont affichées sur Internet en enfourchant des vélos, des bicyclettes en Iran. Et c'est le mouvement qui s'appelle My Silthy Freedom, ma liberté furtive, qui milite pour les droits de la femme en Iran. Alors, autre information, en 2013, il y a une Saoudienne qui s'appelle Haifa Al-Mansour, qui avait réalisé un superbe film qui s'appelle Wajdada. C'est l'histoire d'une petite fille qui rêve d'avoir une bicyclette, et ça nous fait découvrir un petit peu l'univers intime des Saoudiennes. Et d'ailleurs, depuis 2015, monter à vélo n'est plus un délit pour les femmes en Arabie Saoudite. Même si ce changement apporte certaines conditions, comme le fait que le vélo doit seulement servir à se divertir ou faire du sport et non être utilisé comme moyen de locomotion. J'ai un autre exemple, c'est une initiative beaucoup plus positive, c'est au Malawi. Donc en 2007, le Malawi ne consacrait que 12% de son budget à l'éducation, et moins d'un quart des filles allaient au bout du cursus. Et parmi celles-ci, on en avait simplement 9% qui obtenaient leur diplôme de secondaire. Et alors, un des plus grands dangers pour les écolières dans ces régions, c'est les dangers qu'elles peuvent rencontrer sur le chemin de l'école. Et dans le sud du Malawi, il y a un village qui s'appelle Mindédé. Et ce village ne compte qu'une seule école secondaire dans un rayon de 60 km. Et du coup, la directrice voulait trouver un moyen pour que ces jeunes filles ne doivent pas traverser la brousse à pied. Avec l'aide des Nations Unies, ils ont créé la fondation et la fondation Girl Up. Ils ont créé un programme qui s'appelle School Cycle. Et donc, c'est un programme qui leur permet d'acquérir et de récolter des vélos. Et à l'heure actuelle, il y a déjà plus de 600 vélos qui ont été récoltés. Wow. Alors, on a aussi au Ghana, à l'initiative d'une femme, en 2015, qui a créé un tout nouveau vélo qui a une particularité assez impressionnante parce qu'il n'est constitué que de bambou, un matériel naturel et local, ce qui facilite évidemment la construction des vélos. Et donc, c'est un projet qui s'appelle Ghana Bamboo Bike. Et l'objectif, c'est quoi ? C'est de permettre aux Ghanéennes d'acheter leur vélo écologique localement pour éviter l'importation et réduire aussi l'impact écologique et surtout créer une activité locale donc pour les villages avoisinants. Et là, je reviens à Bruxelles parce que je pense qu'on a une initiative assez similaire à Bruxelles. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Ça s'appelle, je ne sais pas si je le prononce bien, mais je vais dire Cycad. Donc c'est C-Y-C-A-D.
Oui.
Et c'est une compagnie qui fait du leasing de vélos en bambou. Et c'est une société qui est née en juillet 2016 et qui propose donc une location longue durée de vélos en bambou, électrique ou non.
Ah, je ne savais pas que c'était la location.
Ouais. Et leur particularité, c'est qu'ils sont en bambou et qu'ils sont fabriqués de A à Z par la personne qui a fondé cette société, qui s'appelle Narciso. Et du coup, je pense que ce serait sympa de pouvoir les inviter une fois. Enfin. Évidemment, je ne peux pas parler des initiatives du vélo pour les femmes sans parler de Elles font du vélo. Est-ce que quelqu'un connaît ?
À fond, oui. Il faut les suivre. Elles ont un blog génial, voilà, qui regorge d'informations. Elles sont sur les réseaux sociaux. Il faut
exact.
Vraiment les suivre.
Et donc, c'est en fait, Elles font du vélo, c'est un magazine de vélo féminin. Enfin, là-bas, c'était un magazine, mais c'est bien plus que ça maintenant, puisqu'elles organisent des événements un peu partout. Il y a des coaching vélo, toutes les tendances actuelles sur les vélos, la nutrition, la mobilité. Donc, c'est vraiment une source d'informations très pertinente liée au vélo et au vélo pour les femmes aussi.
Alors, en studio, nous avons Yasmina et Anne de ProVélo. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler aussi de la jante féminine qui a peut-être un peu plus de mal à se mettre au vélo que la jante masculine. Et c'est pourquoi vous avez lancé une campagne qui se nomme la campagne Ancel.
Cette campagne a fait suite à une étude dont on a dévoilé des résultats l'année dernière.
Une étude sur combien de temps, en fait, c'est ça, qui a été faite ?
Et donc, l'étude, elle s'est passée en plusieurs phases. Il y a eu une enquête en ligne, il y a eu des journaux de bord commentés et alors il y a eu des focus groupes qu'on a organisés. Donc c'était en 2019. Il y a plus de 1000 femmes qui ont répondu l'enquête en ligne et donc sur cette base-là, on a pu sélectionner des femmes pour faire les journaux de bord, les parcours commentés, les itinéraires commentés et alors les focus groupes. Et donc il y a entre 40 et 50 femmes qui ont participé aux 6 focus groupes.
Ah bien, oui. Et si je me souviens bien, les chiffres, c'est quoi, à peu près 30% des cyclistes dans Bruxelles sont des femmes, c'est ça ?
C'est ça. Donc en 2019, l'Observatoire du vélo comptait 36% de femmes.
C'est fou, ça.
Oui, voilà.
C'est peu, et donc, c'est 2/3 d'hommes, 1/3
voilà,
de femmes.
Voilà, c'est ça.
Pourquoi ?
Le nombre de femmes à vélo, c'est un indicateur de la cyclabilité d'un territoire. Et donc c'est vrai que, on connaît quand même le réseau bruxellois qui n'est pas toujours hyper cohérent en termes d'itinéraire, d'infrastructure. Et donc voilà, ça s'explique aussi pour ça. Mais donc, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'on a interrogé à la fois des femmes cyclistes et non cyclistes pour comprendre les différences entre les deux aussi. Et donc, dès le départ, on voyait que les femmes non cyclistes, par exemple, citaient comme première raison à ne pas faire de vélo le danger et le sentiment d'insécurité. Alors que les femmes cyclistes, elles vont citer comme raison de ne pas prendre le vélo un jour, une distance trop longue, par exemple. Mmh. Et donc, il y a vraiment des différences assez marquées entre les deux profils.
Et c'est intéressant de voir ça, justement, parce qu'on se rend compte, finalement, qu'une fois qu'on s'y met, justement, ces craintes-là, elles s'envolent. C'est vraiment la pratique qui fait qu'on se retrouve sur son vélo.
Et puis après, on prend sa place sur la route, en fait. Ouais. On sait comment se mettre en sécurité aussi. Ouais.
Est-ce qu'on a une idée, il y a quelques années, quel était ce pourcentage ? Parce que la cyclabilité à Bruxelles s'est quand même grandement améliorée ces dernières années. Est-ce qu'on connaît les chiffres d'il y a quelques
années ? Oui, en fait, en moyenne, il y a une augmentation de 2,5% par an, en moyenne. Et donc, en 2010, je crois qu'on était autour de 20%, je crois que c'est ça.
La dernière étude date de 2010 ?
Alors non, l'Observatoire du vélo, il est édité tous les ans.
Ah, chaque année, c'est ça.
Tous les ans, oui. Et donc, tous les ans, on mesure le nombre de femmes et le nombre d'hommes. Okay.
Ouais. Donc, combien de pourcents en 2010, tu dis ?
Environ 20, je crois.
Ah oui, donc il y a quand même
Une belle progression, oui, c'est ça, d'année en année.
Les filles, mettez-vous en selle, quoi. C'est, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est beaucoup moins... Oui, c'est comme vous dites, quoi. C'est des appréhensions qu'on a et qui ne se... Oui, évidemment, c'est pas... Enfin, il faut être attentif, quoi, mais comme partout, mais... Mm-hmm.
J'ai oublié de dire pour les Français, les Suisses qui nous écoutent, ProVélo, c'est une association qui...
C'est une association qui promeut la pratique du vélo au travers de solutions
et
services personnalisés, concrètes, notamment de la formation, également des audits. Il y a énormément en fait de choses qu'on fait chez ProVélo pour amener toutes sortes d'audiences en fait à se mettre au vélo, aussi bien le grand public que des entreprises. On est aussi bien sûr aux côtés des pouvoirs publics pour mettre en place des politiques vélo cohérentes.
C'est provélo.org le site, c'est ça ?
Oui, ouais, tout à fait.
Facebook, tout ça.
Donc on a lancé cette campagne de sensibilisation dont parlait Clément,
donc en SEL. C'est SEL avec le L évidemment.
En avant, c'est ça, en majuscule. L en majuscule, Et c'est une campagne en fait qui est vraiment axée aussi pratique et solution justement, puisqu'on disait l'essayer c'est l'adopter. Et ce qu'on essaye de faire, c'est montrer des femmes cyclistes qui elles ont passé le pas, qui l'utilisent au quotidien et qui partagent leur expérience comme vous faites vous aussi en fait.
Mais merci beaucoup à Pro Vélo. Merci Anne, merci Yasmina d'être venue nous parler de tout
plaisir.
Ça. C'était hyper intéressant. Donc je rappelle juste qu'on vous retrouve sur le www.provelo.org. Allez, on se retrouve dans un mois.
Ciao.
Ciao.